Salutone.
Saluton.
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 Saluton. Saluton.
Bonjour à tous. Bienvenue dans ce 26e Saluton, émission consacrée à l'espéranto. Nous allons tout de suite retrouver Ange Matteo. Il nous parle à nouveau aujourd'hui des fameux Zeoi, puis de quelques personnalités s'étant exprimées en faveur de l'espéranto.
Nous poursuivons aujourd'hui nos petites chroniques liées à l'espéranto. Lors de la dernière émission, nous avions évoqué les Zeoi, c'est-à-dire les Zamenhof Esperanto Objectoi, c'est-à-dire les objets liés à l'espéranto et à son créateur Zamenhof ou aux personnalités importantes du mouvement espérantiste. Donc notamment, ce sont des noms qui ont été donnés à des places, à des rues, à des ponts, etc. Alors je vous en reparle aujourd'hui, puisque très récemment, un nouveau Zeo, c'est-à-dire un nouveau Zamenhof Esperanto Objecto, a été inauguré à Montrésor, qui est une petite commune au sud de Tours, au bord de la rivière Indrois. Ça se trouve dans le département de l'Indre-et-Loire. Donc ce nouvel objet a été inauguré le 27 juin 2009 par le groupe espérantiste de Tours, en présence du maire Jean Moreau. Alors en fait c'est une sculpture comme l'on peut voir au milieu des fontaines, qui a une hauteur de 4 mètres et qui est en deux parties, une grande étoile à 5 branches, peinte en vert, sur laquelle on peut lire « Esperanto Internacia Lingvo », donc l'espéranto, langue internationale, dont le diamètre est de 3 mètres 40. Et grâce à une pompe, l'eau fait mouvoir l'étoile, laquelle fait tourner la seconde partie, un manège composé d'un globe terrestre de 80 cm de diamètre et de 5 bonhommes qui le saluent. Les 5 branches de la grande étoile correspondent et symbolisent les 5 continents. Et la couleur verte, l'espoir symbolisé par cette langue. On doit cette sculpture et cette fontaine à Guy Ghetto, qui est un artisan ingénieux et qui est membre du groupe espérantiste de Tours. Quel est donc cet espoir symbolisé par l'espéranto? Eh bien, comme le disait le docteur Zamenhof, quand les peuples pourront se comprendre, ils cesseront de se détester. C'est un petit peu l'idéal qu'il y a aussi derrière la langue espéranto. C'est-à-dire que les gens puissent se parler, se comprendre et ainsi mieux se connaître et éviter les différents conflits qui peuvent émerger dans les différentes régions de notre belle planète. Alors aujourd'hui, nous allons donner la parole à des personnalités célèbres qui ont parlé de l'espéranto, comme par exemple Léon Tolstoï, le célèbre écrivain russe, qui nous dit... Les sacrifices que fera tout homme de notre monde européen en consacrant quelque temps à l'étude de l'espéranto sont tellement petits et les résultats qui peuvent en découler tellement immenses qu'on ne peut pas se refuser à faire cet essai. Léon Tolstoï avait lui-même expérimenté l'apprentissage de l'espéranto et il avait dit qu'au bout de quelques heures, il pouvait comprendre un petit texte simple. Autre grand penseur de l'humanité, René Descartes, donc philosophe et savant français du XVIIe siècle, qui a dit « J'oserais espérer une langue universelle, fort aisée à apprendre, où il n'y ait qu'une seule façon de conjuguer, de décliner, de construire les mots. » Et il ajoute, dans une lettre à un ami, « Il faudra que l'humanité crée une langue internationale, sa grammaire sera si simple qu'on pourra l'apprendre en quelques heures, il n'y aura qu'une seule déclinaison et une seule conjugaison. Il n'y aura point d'exception, ni irrégularité, et les mots dériveront les uns des autres au moyen d'affixes. » Alors, ce principe qui a été déjà posé par Descartes a été mis en œuvre par le docteur Zamenhof, puisque la grammaire de l'espéranto est simple. Il n'y a une seule quand on dit qu'il n'y a qu'une seule conjugaison, par exemple pour les verbes au présent, à toutes les personnes et pour tous les verbes, sans aucune exception, le présent, la terminaison du présent est as, c'est-à-dire as, et tous les verbes qui se terminent par as sont conjugués au présent, comme dormir, mi dormas, je dors, ou alors tu manges, vi manjas. Donc tous les verbes à toutes les personnes, la terminaison du présent de l'indicatif est as. Alors d'autre part, lorsque Descartes parle d'affixe, c'est exactement ce qu'a mis en œuvre donc le créateur de l'espéranto, en élaborant, en créant des suffixes et des préfixes qui peuvent s'agglutiner à diverses racines et former un nombre très très important de mots. Des mots nouveaux, mais que l'on peut décomposer et comprendre. Autre grande personnalité française qui a parlé de l'espéranto, eh bien, je voulais évoquer maintenant l'ingénieur français que tout le monde connaît de par le monde, Gustave Eiffel, donc qui a vécu au 19e siècle et est mort en 1923, donc début du 20e siècle, qui a évidemment construit la tour du même nom. Et que nous disait-il sur l'espéranto ? L'espéranto, sans avoir eu le courage de m'y mettre une bonne fois, ce que mon grand âge rend excusable, je ne manque jamais de le recommander aux jeunes comme l'une des connaissances les plus faciles et les plus utiles que l'on puisse acquérir. Alors là, on ne peut être que d'accord avec Gustave Eiffel, puisque on sait que actuellement les jeunes qui peuvent apprendre l'espéranto, ça leur ouvre des possibilités très très grandes, puisque grâce à cette connaissance, ils peuvent voyager en Europe et de par le monde. Ils peuvent être accueillis chez l'habitant, chez des espérantistes du monde entier, parce que ça leur fait plaisir tout simplement d'accueillir des gens qui parlent espéranto. Et l'on connaît beaucoup de jeunes qui ont traversé l'Europe, et même plus que l'Europe, avec un sac à dos et comme seul bagage cette langue universelle. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine émission.
Merci Ange, et à bientôt donc.
Scribile en la mano, sur table caillero, la capo sen plano, la cor cun espero. Mi turnas al sorto min cun sola pet, che venon ur vorto al povra poet. Sed la sorto ridas, ridas cun fier. Jen mi kion vidas en la horo de miser. Gitaro, arbaro, somero, tendaro, renconto en esperantui. Cun plena felicio dum la renkontigio, ek gioiuni ciui kaj tui. Sur brust verda stelo, sub nocta cielo, ek sonu tui forte la cant. Pri amo sen fino, pri bela knabino, kaj certe pri la esperant. Komencantoj, komencantoj, bone lernu Esperanton, ĉar sen tio ne komprenos vi eĉ tiu simpla kant. Ho mia tre kara, sopira, amara, mi amos vin ĉiam senĉes. Doloro en koro, la vivo sen floro, kaj mankas kares kaj for.
C'était Mikhaël Povorin, espérantiste russe, qui vous a interprété Canto pri nenio. Nenio, c'est rien, donc il s'agissait d'une chanson ne parlant de rien, ou peut-être de tout, à vous d'en juger. Eh bien, je crois que Dorothée et Pierre nous attendent impatiemment pour le cours d'espéranto. Bonjour Dorothée.
Saluton.
Saluton. Bonjour Pierre.
Bonantagon.
Bonantagon. Bonjour. Eh bien, nous commençons aujourd'hui la huitième leçon du Junul Curso, le cours pour les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On verra les petits points de grammaire tout à l'heure. Mm-hmm. Hein, et puis on va commencer par le texte.
Voilà.
Qui commence à lire?
Moi.
Allez, Dorothée.
Joannino cachia pupo sida sur la larga seggio sub granda ombrello.
Yes, Joannino. Hein,
le Joannino.
Voilà, le J sans le chapeau, donc que l'on prononce Joannino.
Joannino.
Alors, on va découper en éléments et Pierre va répondre, va traduire. Donc, Joannino cachia pupo.
Donc, Jeanne et sa poupée.
Yes.
Sont assises.
Sidas sur larga seggio. Sidas sur larga seggio.
Sur un grand siège.
Sub granda ombrello.
Sous le grand parasol.
Très bien. Donc, ombrello, vous pensez au français, vous pensez au français ombrelle, bien sûr.
Ouais.
Et on pourrait préciser sous un ombrello pour le soleil. Ouais. Mais comment dirait-on un parapluie?
Ombrello, pareil, non?
Yes, pluv ombrello.
Pluv ombrello.
Ombrello.
Pour préciser, pour se protéger de la pluie. Donc, ombrello est le terme plus général.
D'accord.
La suno brillas, gi estas varma.
Bonne. La suno brillas.
Donc, le soleil brille.
Yes, gi estas varma.
Elle est chaude.
Il est chaud, yes. Chaud. Gi, donc gi, le pronom soleil. Personnel neutre, ici c'est le soleil.
La pupo sidas kai ridetas.
Kai ridetas.
Ridetas.
Bon, et l'accent tonique donc sur l'avant-dernière syllabe, hein, toujours.
La poupée est assise et elle sourit.
Et sourit, yes, très bonne. Alors, pourquoi elle sourit et pour...
Ridi, ça serait rire.
Voilà.
Ridetti, c'est sourire.
Effectivement, et, donc eti, dans le cas d'un verbe, c'est le suffixe diminutif, ridetti.
Gia capello estas bella.
Bonne.
Son chapeau est beau.
Bonne. Chapello, donc le chapeau.
La knabino kai la pupo sidas. Ili reposas.
Yes. La knabino kai la pupo.
La jeune fille et la poupée.
Sidas
sont assises.
Ili reposas.
Elles se reposent toutes les deux.
Très bien. Donc le verbe riposi veut dire se reposer. En français, il est pronominal. En espéranto, riposi est un verbe donc ordinaire.
Ilia ombrello estas granda, kai ilia seggio estas larga.
Très bien prononcé. Il y a l'accent tonique. Très bien, Pierre. Ilia ombrello.
Leur parasol.
Yes. Estas granda.
Son grand.
Oui, ou est grand, puisque là, il est au singulier.
Ouais.
Estas granda. Kai ilia seggio.
Et leur fauteuil.
Oui, leur siège. Leur chaise. Estas larga.
Est grand.
Très bien. Alors, seggio, c'est le terme général pour un siège.
Siège.
Donc, une chaise également. Un fauteuil, on pourra dire braxeggio.
Braxeggio.
Une chaise avec des bras. Oui,
oui. Braco. Avec des bras.
Voilà, oui, oui. Braxeggio pour un fauteuil. Seggio, donc le terme normal qui fait penser au français, bien entendu, siège.
Culerego estas granda culero, sed culereto estas malgranda culero.
Très bonne. Oh. Alors, là nous rencontrons le suffixe augmentatif, eg, eg, ego si c'est un substantif, egi si c'est un verbe, etc. Donc, culerego.
Une cuillère.
Une grande cuillère.
Alors, c'est une grande cuillère, ça peut être une louche, la grande cuillère pour servir à partir d'une soupière, par exemple. Culerego estas granda culero.
Est une grande cuillère.
Très bien.
Mm-hmm. Mais.
Culereto.
Mais une petite cuillère. Est une petite cuillère.
Eh oui, très bien.
Mais c'est très bête.
Parce qu'en
fait, oui, c'est bête.
C'est bête parce que le français est pauvre.
Mais oui.
Et oui, parce que le français, en fait, il n'y a pas le mot français pour dire grande cuillère, à part le mot louche, mais la louche a une forme particulière. Il n'y a pas non plus de substantif pour dire petite cuillère. Donc nous employons un adjectif et le substantif cuillère. Tandis qu'en espéranto, vous pouvez ajouter et ou egg, le suffixe diminutif ou le suffixe augmentatif. Vous pouvez l'ajouter à n'importe quel mot. Il n'y a pas de restriction pourvu que le résultat, bien entendu, ait un sens. Donc, nous avons un petit peu de mal pour traduire culerego, qui veut dire grande cuillère, et culereto, qui veut dire petite cuillère.
Voilà.
Voilà, donc cette phrase définit finalement ces deux mots. Culerego estas granda culero, sed culereto estas malgranda culero. Voilà, donc les suffixes ego et eto sont définis par cette phrase.
Voilà. La piro estas en la telero de Carlo, kai la pomo estas la mano de Johannino.
Johannino, bone. Alors, je répète aussi en élément plus court pour nos auditeurs. La piro estas...
La poire est...
En la telero de Carlo.
Dans l'assiette de Charles.
Très bien. Kai la pomo estas...
Et la pomme est...
En la mano de Johannino.
Dans la main de Jeanne.
Voilà, parfaitement traduit.
Carlo parolas kai montras.
Charles parle et montre.
Voilà, que montre-t-il? La phrase s'arrête là, sinon on va avoir besoin de ce qu'on appelle l'accusatif pour désigner le complément d'objet direct, pour le marquer en tout cas. Donc, Carlo parolas kai montras, Charles parle et montre.
La piro estas tieci en mia telero.
Bone.
La pomo estas tie en sia mano.
Très bien. Alors, cette phrase, c'est pour apprendre à distinguer ici, avec ce petit mot « chi ». Voilà. Pierre, donc « tie chi » veut dire ?«
Ici ».
Yes.
« Et tie » tout près. « Et tie », c'est là, un peu plus loin.
Et ce petit mot qui va distinguer entre « ici » et « là » s'écrit « c » chapeau « i » et on le prononce « chi ». On dit « tie chi » ou bien « chi tie ». Un espace entre les deux mots, toujours. Tie chi ou chi tie. La piro estas tie chi, Dorothée. La piro.
La poire.
Estas tie chi.
Est ici dans ma main. Mon assiette.
Yes, en mia telero. Donc, pourquoi ajouter chi? C'est qu'elle est dans mon assiette.
Ouais.
Donc, elle est vraiment tout près de moi. Donc, je vais plutôt dire ici. En français, on ne marque pas tellement la différence. Personnellement, je n'ai pas tellement l'habitude de marquer une grande différence entre « ici » et « là ». En espéranto, quand on ajoute « chi », c'est pour marquer la proximité immédiate. Et lorsqu'on ne l'ajoute pas, lorsque « ti » est, par exemple, est seul, l'objet est sensiblement plus loin. Donc, cette poire, elle est tout près de moi, donc on va dire « ti e chi en mia telero ». La suite de la phrase, la pomo estas tie en sia mano. La pomme
est là en sa main.
Voilà, la pomme est là dans sa main, et donc sia, c'est la main d'une dame. Lia, ça serait la main d'un monsieur. Donc la pomme, elle est tie, elle est là. Elle est un petit peu plus loin que si on avait dit tie chi. Voilà la petite nuance introduite par ce petit mot « chi ».
Johannino parolas kai montras.
Bonne. Pierre.
La pomo...
Alors,
Jeanne parle et montre.
Voilà, on a l'équivalent cette fois-ci du côté de Jeanne.
La pomo estas tie chi en mia mano.
La pomme est ici... Dans ma main.
Et oui, puisqu'elle est dans la main de Jeanne, cette pomme, elle est tout à fait, elle est toute proche d'elle, d'où le mot chi, ti et chi. Elle est ici, dans ma main, nous dit Jeanne.
La piro estas tie en la lia telero.
Yes.
La poire est là, dans sa main à lui.
dans son assiette
à lui.
Oui, oui. Donc pour Jeanne, c'est la poire qui est un petit peu plus loin. Donc elle est tillée, elle est là, elle est dans son assiette à lui, dans l'assiette de Charles. Donc voilà, donc c'est bien clair. Ouais. Dès qu'on ajoute chi, devant tillé ou derrière, les espérantistes se partagent, mm-hmm. peu importe, tillé chi ou chi tillé, c'est une proximité immédiate.
Neniu estas en la glaso, neniu estas en la chemiso.
Alors là, on va distinguer entre neniu et neniu. Et c'est pas si facile que ça. Alors, neniu estas en la glaso, Dorothée.
Il n'y a rien dans le verre.
Très bien. Alors, tu as bien dit, il n'y a rien.
Il n'y a rien.
Il y a ne, une apostrophe en tout cas,
ouais.
et rien dans la même phrase en
voilà.
français. Il y a une double négation en français que les espérantistes évitent. Les espérantistes disent neniu estas en la glaso. Rien est dans le verre. Donc ils considèrent que neniu est une négation et il n'y a pas besoin d'ajouter un ne dans la phrase. Neniu estas en la glaso. Et maintenant, une phrase donc légèrement voisine. Neniu, une phrase voisine. Neniu estas en la chemiso.
Personne n'est dans la chemise.
Très bien. Neniu, c'est rien, sous-entendu aucun objet. Neniu est ici traduit par personne. Alors, il y a une erreur malgré tout à ne pas commettre. C'est que quand on dit neniu, on peut le traduire sans problème par rien. Quand on dit neniu, il s'agit de aucun élément d'un ensemble. Alors ça, c'est un petit peu plus subtil comme différence. Si c'est un ensemble de personnes, un ensemble d'êtres humains, par exemple, on va dire neniu, neniu, on va le traduire par personne. Mais si, par exemple, dans un sac, je m'attends à trouver des livres, et je dis « neniu estas en la saco », je vais dire « aucun ». Je ne vais pas dire « personne » pour des livres, mais je vais dire « aucun », sous-entendu « aucun livre ». Je pourrais d'ailleurs dire « neniu libro estas en la saco ». Donc, il ne faut pas croire que « neniu » veuille toujours dire « personne ». « Neniu », ça peut aussi vouloir dire « aucun ». En fait, c'est comme disent les espérantistes, c'est un corrélatif. Bon, nous verrons l'ensemble de ce tableau un petit peu plus tard. Je trouve que c'est sans doute prématuré maintenant. Mais ça signifie aucun élément d'un ensemble. Cet ensemble, ça peut être un ensemble d'êtres humains, ça peut être un ensemble d'animaux, ça peut être un ensemble d'objets, comme le cas des livres.
Estas floro nec en la poto nec en la vaso.
Il n'y a de fleurs ni dans le pot ni dans le vase.
Très bien traduit, Pierre. Et là aussi, je vous fais remarquer que Pierre a dit il n'y en apostrophe. Il n'y a de fleurs ni dans le pot ni dans le vase. Ni est un terme négatif aussi. Donc il y a encore une double négation que l'espéranto évite. Si je traduis mot à mot, estas floro, estas, on a vu qu'on peut le traduire par il y a
une fleur,
il y a une fleur, ni dans le pot, ni dans le vase. D'accord ?
Oui.
Alors voici un autre corrélatif pour terminer cette phrase.
Nenie estas floro.
Nenie estas floro. Comment le traduire, Dorothée ?
Rien n'est fleuri.
Alors, ça n'est pas neniu, ça n'est pas neniu, mais on voit que c'est un mot construit de la même manière, nenie. Et là, ça caractérise un lieu.
Oui, nulle part.
Nulle part. Très bien. Nenie estas floro. Donc, s'il n'y a pas de fleurs dans le pot, s'il n'y a pas de fleurs dans le vase, nulle part, il n'y a de fleurs.
C'est le vide.
Voilà. Bien entendu, il n'y a pas de fleurs non plus dans le reste de l'appartement, hein, si on veut généraliser.
Iom da vino estas en la glaso.
Il y a un peu de vin dans le verre.
Très bien. Alors, là aussi, iom, c'est un corrélatif, mais c'est un corrélatif qui caractérise les quantités. Et c'est un corrélatif indéfini. Ça veut dire, en français, quand, si je demande qu'on me serve un peu de vin, bon, on ne va pas me donner un verre plein, on ne va pas m'en donner une larme, on va donner une quantité ordinaire, moyenne, mais qui n'est pas vraiment définie. Alors, on dit un peu. Si j'en veux vraiment très peu, je dirais un tout petit peu. En espéranto, on dira, au lieu de iom, on dira iomete. Iomete da vino, ça voudra dire un tout petit peu de vin. Iom da vino, en toute rigueur, ça veut dire une quantité indéfinie de vin. C'est un petit peu compliqué de traduire ça comme ça en français, donc on dira généralement un peu de vin. Et il y a un peu de vin dans le verre. Très bien.
Iom da aquo estas en la cruccio.
Très bonne. Donc,
il y a un peu d'eau dans la cruche.
Très bien. Iom da, un peu de, est la traduction la plus simple en français.
Li trinkas iom da vino.
Il boit un petit peu de vin.
Voilà, il boit un peu de vin. Si c'était vraiment une petite quantité, on pourrait dire li trinkas iomete da vino.
Ah non, c'est un peu, c'est pas un petit peu.
Voilà, oui, oui. Bon, c'est pas très grave, mais ça permet de revenir sur le suffixe diminutif vu tout à l'heure, que l'on peut donc appliquer également à iom, à des petits mots comme cela. Iomete da vino, il boit une petite quantité de vin, un petit peu de vin.
Voilà, cette 26e émission de Saluton est terminée. À très bientôt. Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.